Le Salon Noir. Aujourd'hui, le Salon Noir aurait pu rendre hommage à Cléopâtre et Antoine. Nous leur préférons Adèle Blanc-Sec et Patmosis, jeune aventurière, et sa fameuse momie créée par la plume de Tardi. Pourquoi ce choix ? Car aujourd'hui, le Salon Noir va être empli de momies. Des aventurières, des momies, il y en a eu d'autres dans ce 19e siècle finissant. Mata Hari, Émile Guimet, incarne ce goût de l'aventure et de l'orientalisme. D'ailleurs, l'un lança la carrière de l'autre, celle-ci dansa pour le premier. Tous deux ne furent pour autant pas transformés en momies. L'une fut fusillée dans les fossés de Vincennes avant d'être disséquée. L'autre fut honorée pour son œuvre, surtout pour son argent. Un siècle plus tard, que reste-t-il d'Émile Guimet ? Probablement deux grands musées, l'un à Lyon, l'autre place Iéna à Paris. Une histoire aussi à la croisée du monde de l'industrie provinciale, de l'exploration archéologique, de l'égyptomanie enfin. Geneviève Galliano, Éric Gadi, bonjour.
Bonjour.
Un jour, j'achetais une momie est le titre de l'exposition qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui fait découvrir l'œuvre d'Émile Guimet. Geneviève Galliano, conservateur en chef du patrimoine, vous êtes le commissaire de cette exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Éric Gadi, comment vous présentez ? Égyptologue, historien des sciences, en tout cas, une chose est sûre, vous êtes chercheur au Centre d'études alexandrines. Un jour, j'achetais une momie. Voilà une idée qui ne me viendrait pas à l'esprit. Et vous, Geneviève Galliano ?
Oui, pourquoi pas, mais pour le musée, bien sûr.
Car vous n'avez pas le droit d'en avoir, personnellement, quand
non,
on travaille sur un terrain.
Effectivement, et après je crois que ça ne me tenterait pas beaucoup d'en avoir une à la maison.
Éric Gadi ?
Alors moi qui ne suis pas membre d'un musée, je pourrais peut-être en avoir une à la maison, c'est vrai, mais j'imagine qu'acheter une momie c'est quelque chose d'assez rare et qu'il doit falloir un portefeuille un peu plus important que celui que j'ai. Du coup, je n'ai pas de momie à la maison chez moi.
Même pas un de ces petits ou chez petits, vous savez, ces petits personnages de pattes vertes que l'on insère dans les tombes et font les gloires des vitrines.
C'est sans doute fort joli, on en achète des belles copies au musée du Louvre, au British Museum, ça coûte moins cher que l'original.
Et en tout cas, peut-on réellement de nos jours en posséder une dans son salon? Cela se fait encore? On peut en voir passer dans les salles des ventes?
J'imagine que rien ne l'interdit, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes, beaucoup de Français aujourd'hui achètent rue sur des momies. Pourquoi pas?
Alors, ce goût de la mort en Égypte puise ses racines bien avant Émile Guimet et elle touche non pas la France, elle touche l'ensemble de l'Europe, Éric Gadi.
Tout à fait. C'est l'Europe, dès le Moyen-Âge, qui fait venir des momies. On importe des momies d'Égypte, bien sûr. On considère que la poudre de momie peut avoir des vertus. Pourquoi pas des vertus aphrodisiaques, par exemple. Et c'est recherché au Moyen-Âge. Ça a aussi un coût.
Et alors aussi, on en fait des engrais, paraît-il. On en fait des phosphates en Angleterre, d'après ce que j'ai lu.
Vous avez tout à fait raison. De manière plus générale, en fait, toutes ces vieux déchets, ces vieilles ruines de l'Égypte antique qui existent depuis des milliers d'années, eh bien, les paysans égyptiens les exploitent au XIXe siècle. Il y a même toute une législation qui existe. Et les archéologues du service d'antiquité de l'Égypte sont très attentifs à ce que, quand des paysans prennent cet engrais, ce sébar, comme ils le nomment, il n'y ait pas justement des petits ouchéptis, des petits objets qui iraient très bien dans leur musée. Donc on surveille les paysans qui récoltent cet engrais.
Parce que la momie est bien sûr riche en phosphate. Hein. Ça doit être probablement ça. En tout cas, en un mot, la momie, elle prend du sens avec la conquête napoléonienne chez nous. Toute cette égyptomanie, elle naît à peu près à cette époque-là.
Alors, elle va se développer à partir de Napoléon, bien sûr, mais elle existe déjà avant, au XVIIIe siècle. Il y a des momies qui sont importées en France. On les trouve dans les cabinets de curiosité du XVIe, du XVIIe siècle, et Bonaparte n'était toujours pas né. Mais évidemment, avec Bonaparte, c'est l'ouverture de l'Orient sur l'Europe et la multiplication des momies, si l'on peut dire, va se faire.
Alors, si j'ai cité Adèle Blanc-Sec et sa fameuse momie, Patmosis, ce n'est absolument pas pour rien. D'abord, c'est parce qu'on était bien sûr dans le 19e siècle, parce que cette momie est bien sûr dans une vitrine. Mais c'est surtout parce qu'Émile Guimet, lui, des momies, il en a absolument partout. Il en a partout et Geneviève Galliano, il existe un très beau texte d'Émile Guimet sur le sujet.
Oui, alors je modérerai un peu, il en avait plusieurs, il n'en a pas partout, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel que de posséder une momie chez soi et non pas dans un musée. Il le raconte dans le jubilé du musée Guimet, c'est-à-dire qu'il a écrit en 1904, hein, 25 ans après la fondation de son premier musée à Lyon, et quand on lui demande d'évoquer comment il a pu commencer à constituer une collection, il ne s'en souvient pas trop. Il dit « Je suis allé en Égypte et ensuite j'ai commencé à acheter des objets ». Et il écrit « Peu à peu, les figurines en terre émaillée, les dieux de bronze, les canopes d'albâtre, les stèles en calcaire, les statuettes de granit envahirent ma chambre à coucher où j'avais réuni mes souvenirs de voyage. Quelques papyrus ouverts et des copies à l'aquarelle de peinture murale ornaient les murs. Un jour, j'achetais une momie. Quelle joie! Puis une autre. Pour gagner mon lit, j'étais obligé d'enjamber les cadavres. Je changeais de chambre. »
Ça en dit long. Alors qu'est-ce qu'il fait, Émile Guimet, de toutes ces momies, même s'il en a visiblement une ou deux seulement. Il en a eu, j'imagine, bien plus. Il les rapporte en France. D'abord, alors, il y a un partage systématiquement s'il achète des objets en Égypte. Et puis, il les expose. Et il les expose au travers de deux musées. Car Émile Guimet créera, et c'est peut-être là l'important de son œuvre, créera deux grands musées, un à Lyon, un à Paris.
Oui, alors là, cette relation en fait, du début de sa collection, Émile Guimet a 29 ans, a 30 ans. Donc, il n'est pas encore directeur de musée. C'est un simple particulier qui est le fils d'un riche industriel. Donc, il a de l'argent qui lui permet effectivement d'acheter auprès d'antiquaires en France, mais également en Égypte. Et il n'achète pas que des momies, lui-même le dit. Donc, il achète des objets, des statues, des papyrus. Et c'est pour son plaisir personnel, en fait. Et il a une orientation vraiment de sa collection qui sont les objets religieux. Donc, la collection va être dirigée sur ce biais. Et les momies sont effectivement liées à la préservation du corps dans un but de renaissance. Donc, c'est lié à la religion. Et ce n'est que par la suite, notamment après un voyage autour du monde, 10 ans après son premier voyage en Égypte, d'où il ramène une grande quantité de statues orientales, qu'il va décider de créer un musée. Alors à Lyon, dans sa ville natale, il le crée en 1879. Il est très rapidement déçu par la fréquentation du musée et il décide de donner ses collections à l'État. Et il crée encore à ses frais un bâtiment, Place d'Iéna, dans le quartier du Trocadéro à Paris. Il donne toutes ses collections et il devient directeur à vie de ce musée. Et quelques temps après, au début du XXe siècle, la municipalité de Lyon a changé. Le maire Édouard Herriot regrette d'avoir laissé partir ce patrimoine hors pair, c'est-à-dire beaucoup de collections asiatiques, mais également égyptiennes ou autres. Et il réinstalle un musée en 1912 qui ouvre en 1913 à Lyon.
Éric Galli.
Oui, sur la question du partage, au tout début, quand il va en Égypte en 1865, il ne peut pas y avoir de partage de fouilles pour une raison très simple, c'est que depuis que Mariette dirige le service des antiquités de l'Égypte, de 1858 jusqu'à sa mort en 1881, les fouilles étrangères sont interdites. C'est-à-dire seule l'Égypte fouille et le produit de ces fouilles va au musée de Boulak, à côté du Caire. Ça veut dire qu'on peut-être acheter sur le marché, auprès des vendeurs et des antiquaires au Caire, des momies qu'on peut faire revenir. Mais ce n'est pas un partage en tant que tel, à cette époque-là en tout cas.
Et puis il y a des taxes, j'imagine. On paie des taxes quand on transporte une momie, quand on exporte une momie.
Au 19e siècle, c'est vrai qu'on ne sait pas comment transporter des momies, ou plus précisément, ce n'est pas quelque chose de facile. Les douaniers, eux en tout cas, ne savent pas. Et c'est vrai qu'un égyptologue est entré au Caire avec sa momie en déclarant qu'il s'agissait du poisson séché ou quelque chose comme ceci pour que ça rentre dans les références fiscales.
En tout cas, qu'est-ce qui prédispose un industriel ayant fait fortune dans le bleu guillemets, une invention de sa famille, possesseur aussi d'une entreprise qui s'appelle Péchinet, aujourd'hui Alcan, multinationale, à s'intéresser à l'Orient? Qu'est-ce qui prédispose un jeune provincial riche, certes, mais à s'intéresser à l'Orient? Le goût de l'exotisme?
Non, moi je dirais que c'est vraiment le hasard. C'est l'impression que l'on a quand on lit donc son récit de voyage. Comme je disais, il a 29 ans, il devait faire ce voyage avec un ami, et qui est un antiquaire lyonnais. Et il part comme ça en touriste. Alors les voyages organisés n'existent pas encore, mais l'Égypte quand même reçoit encore beaucoup d'étrangers pour leur faire faire du tourisme. Et il se promène, alors il va bien sûr voir les travaux du canal de Suez, qui est le fleuron de l'industrie européenne en Égypte. Il va jusqu'à la première cataracte, il remonte le Nil, il se promène au Caire, mais vraiment, on sent par son récit de voyage que la visite du musée de Boulak est un coup de cœur pour lui et une révélation.
En tout cas, au risque de vous déplaire, Éric Gadi, le goût de l'Orient, celui de l'Égypte, c'est par force celui des élites de ce temps et peut-être encore celui d'aujourd'hui. En cela, Émile Guilmay ne déroge absolument pas à la règle. Il n'y a d'ailleurs absolument rien d'original là-dedans.
Oui, c'est
vrai. Rome, la Grèce, l'Égypte, pas la France.
Oui, bien sûr, à l'époque où Émile Guimet va en Égypte, en 1865, c'est réservé à des aventuriers. Jusque dans les années 1860-70, ou à quelques personnes assez riches. Le tourisme de masse, finalement, c'est avec l'arrivée de l'agence Cook en Égypte à partir de 1869. On est juste là à cette charnière, quelque part.
Et le premier voyage compte, bien sûr, toujours, pour quand on est jeune. Et ce premier voyage, Émile Guimet n'y échappe pas. Nous voici donc en 1865, et c'est l'Égypte. Il restera combien de temps dans cette Égypte du 19e siècle,
hein ? En 1865, il reste 2-3 mois.
Il reste 8 semaines. Alors, il faut compter une semaine de traversée entre Marseille et Alexandrie, donc à l'aller au retour. Et donc, il reste 6 semaines sur place.
Et est-ce qu'il collectionne immédiatement ? Est-ce qu'il a ce goût de la collectionnite.
Il rapporte des choses qu'il achète, je crois, il indique, mais on ne sait même pas si ce qu'il a acheté est vrai ou faux. Il a peut-être rapporté quelques petites choses.
Lui-même, voilà, dit qu'il a ramené quelques petits objets, mais faux pour la plupart. Et vraiment, sa collection commence à son retour en France, à Lyon et à Paris.
1865, on peut imaginer qu'il rencontre sur place des archéologues. Quels sont les grands archéologues de cette époque-là ?
Alors,
français, anglais, égyptien ?
Ils sont français, mais fonctionnaires égyptiens, comme Auguste Mariette. Il a cherché à rencontrer Auguste Mariette. Il l'a sans doute vu. Il n'en parle que, ça doit tenir deux lignes dans son voyage croquis égyptien. Je pense qu'il a dû être déçu parce que le contact ne se fait pas, visiblement, entre Mariette, qui est un savant reconnu à l'époque, en 1865, et Émile Guimet, qui est certes un industriel.
Passé à la postérité, surtout.
Passé à la postérité. Émile Guimet, qui est un industriel qui a les moyens, c'est vrai, mais qui n'est pas du tout un savant, qui n'est pas reconnu dans le monde de l'égyptologie à cette époque, et Mariette doit à peine lui dire bonjour, sans doute, ce qui explique une relative déception quand même dans le journal de voyage.
Guimet ne fera que deux voyages en Égypte, c'est peu pour un homme aussi riche et intéressé par l'égyptologie. On peut penser qu'il y aurait pu partir tous les ans.
Oui, il y retourne comme effectivement.
Comme aujourd'hui, tout archéologue qui travaille sur le terrain.
Mais lui n'a jamais travaillé, ce n'était pas un archéologue. Hein. Il a fini par financer des fouilles, mais il n'était pas archéologue. Et il y retournait en 1895, c'est-à-dire 30 ans après son premier voyage, et vraisemblablement pour se rendre compte de l'état du site d'Antinoé, dont il financera les fouilles pendant de nombreuses années ensuite.
Alors la question va bien sûr peut-être vous dérouter, je suis sûr qu'elle va vous dérouter, mais nous savons qu'à la mort de son père, Freud se rend en Italie, il en naîtra une passion pour l'antique grec, romain ou égyptien, un objet acheté par semaine tout au long du reste de sa vie. Nous voici un peu presque sur le même schéma d'Émile Guimet.
Alors, pas tout à fait quand même. Pour Freud, les objets égyptiens restent sur son bureau. Ils ne sont pas destinés à être exposés et montrés à tous. Or, pour Émile Guimet, c'est une autre conception des choses. Son but, c'est de diffuser le savoir, montrer ces objets, qu'ils soient vrais ou faux, d'ailleurs, puisque, comme ça se fait à l'époque, hein, c'est quelque chose de courant aussi, on expose dans le musée toute une série de copies d'autres monuments qui se situent dans d'autres espaces. Donc là, il y a une différence entre, peut-être, Freud et Guimet.
Et puis, c'est un grand communicant, Émile Guimet.
Tout à fait.
Quelqu'un de très ouvert sur la société, qui veut éduquer l'humanité, peut-être. Alors, même.
Il y a la volonté d'éduquer toute l'humanité, y compris pourquoi pas ces ouvriers, même si dans la réalité, on se doute bien qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers qui fréquentent le musée ou les conférences Guimet. Moi, je dirais que ce n'est pas simplement la volonté de diffuser le savoir, c'est aussi, il aime ça. Il aime se mettre en scène, notamment dans les conférences. On le voit dans les comptes rendus des journalistes. Hein. C'est un spectacle, quelque part, les conférences de Guimet. Il utilise des moyens techniques, pas le PowerPoint d'aujourd'hui, mais des projections à la lumière oxydrique, nous dit-on, qui émerveillent les spectateurs de l'époque. Il est capable de montrer des dizaines, presque une centaine pour une conférence sur les découvertes en Égypte, d'images que les Lyonnais ou les personnes qui regardent ne sont pas habituées à voir. Donc oui, il cherche à séduire. Il ne cherche pas forcément à faire de la grande érudition. Le but, c'est aussi que les spectateurs passent un moment agréable.
Et puis on peut dire qu'il aime les médias et que si nous étions en 1912, Émile Guimet serait probablement dans le Salon Noir. Il collecte d'ailleurs toute coupure le concernant, voire plutôt concernant ses œuvres et ses musées.
Exactement, c'est assez extraordinaire. Quand on est allé pour préparer l'exposition avec Geneviève chez la famille Guimet, chez les descendants, Hubert Guimet nous a descendu un énorme volume relié dans lequel il y avait des centaines, peut-être des milliers de coupures de journal. Il se faisait vendre par les organes de presse toute la moindre coupure qui parlait de lui et parlait de son musée. C'est une mine d'informations pour l'historien.
Alors pour nos auditeurs de France Culture, je rappelle que nous évoquons l'œuvre d'Émile Guimet au travers de l'exposition « Un jour j'achetais une momie » qui se tient actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Les invités du Salon Noir sont Geneviève Galliano, conservatrice et commissaire de l'exposition, Éric Gady, historien de l'égyptologie et membre du Centre d'études Alexandrine. En quoi Émile Guimet est-il un collectionneur atypique ? Éric Gady.
Oui, c'est un collectionneur atypique dans le sens où il ne cherche pas à garder ses objets chez lui. Vous avez des collectionneurs qui veulent garder ses collections privées. Lui, dès le début, il veut fonder son musée à Lyon puis à Paris. Il l'offre à l'État. Également, donc il fait œuvre de générosité et ça coûte très cher, hein, ces musées. Et puis autre chose, c'est qu'il ne reste pas comme un simple mécène. Il y a d'autres mécènes à cette époque, au 19e siècle. Lui, il se veut aussi savant. C'est la particularité. Alors, on a évoqué les conférences, par exemple. On peut évoquer ses écrits. Il a une bibliographie qu'il considère, lui, comme scientifique importante. Aujourd'hui, c'est vrai que ses articles ou ses écrits égyptologiques n'ont plus beaucoup de valeur scientifique. Ils ne sont pas reconnus, en tout cas, par les égyptologues actuels. Il va jusqu'à parler devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce qui n'est pas rien. Il a la prétention même de faire partie de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il se présente 3 fois. Il finit par obtenir même 6 voix. Ce qui est beaucoup, et à la fin de sa vie, il est reconnu comme un membre correspondant de l'Académie, ce qui, pour quelqu'un qui dirige ce qui va devenir Péchiné, est quelque chose d'assez exceptionnel.
Alors c'est aussi le lancement de fouilles. Ces fouilles firent-elles d'ailleurs date dans l'histoire de l'égyptologie ? Parce que les fouilles, ce sont la collecte des données primaires. C'est ça qui est important.
Oui, alors
pour
ces premières fouilles à Héliopolis avec un savant allemand, Eisenlohr, non, puisque là, l'argent a été investi en pure perte. En revanche, les fouilles du site d'Antinoé, elles sont assez exceptionnelles. Il y a plus d'une dizaine d'années de fouilles. Et les objets d'Antinoé vont venir inonder les musées français, notamment le musée Guimet.
Alors on peut dire que quand même, Antinoé couvre une période tardive. Antinoé était visiblement créé par Alexandre donc autour du 2e siècle de notre ère.
Adrien,
oui. Pourquoi s'intéresse-t-il à cette période si tardive dans l'Égypte ancienne? On pense qu'il y a d'autres périodes plus brillantes. Hein.
En fait, Émile Guimet s'intéressait, nous l'avons dit, à l'histoire des religions et plus particulièrement à la diffusion du culte d'Isis, c'est-à-dire en Égypte, mais également hors d'Égypte, dans la partie occidentale du bassin méditerranéen, soit même plus loin, puisqu'il pensait voir peut-être au Japon une sorte de culte de diffusion du culte d'Isis. Et ce qui l'intéressait dans le site d'Antinoé, cette fondation donc de l'empereur Adrien en mémoire à son jeune favori Antinous, c'était justement les cultes d'époque romaine et les cultes isiaques. Donc je dois dire qu'il a eu quand même du flair parce qu'il va donc en 1895, ce voyage est très très peu documenté. on a retrouvé dans les archives du musée Guimet quelques lettres qu'il écrit au conservateur du musée Guimet de Paris. Et il lui dit « Je suis au Caire, je suis passé au Fayum, dans le secteur des pyramides. J'ai déjà 10 caisses d'objets de remplis et je vais à Armim et Antinoé. » Donc personne à cette époque pratiquement ne va en Tinoué. Ça fait 10 ans qu'il écrit qu'il est intéressé par ce site et donc il a vraiment une envie d'aller plus loin, de connaître. Et quand on va encore actuellement en Tinoué, on ne voit pratiquement rien. Et il ne pouvait pas se douter de ce que Albert Gaillet, le fouilleur d'Antinoué, allait trouver, donc notamment ces immenses nécropoles romaines et byzantines.
Alors bien sûr, là, une fois de plus, il ramène des momies, ou du moins il découvre des tombes, notamment celle de Lekyoné, qui sera exposée au musée Guimet, Éric Gadi.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces objets du partage des fouilles, puisque à partir de 1881, les conditions ont changé. Mariette est mort. C'est Maspero qui lui a succédé. Et Maspero a une autre politique. Il considère que l'Égypte est en train de se moderniser très rapidement, que le service d'antiquité de l'Égypte n'a pas les moyens de fouiller tous les sites et que si l'on ne fait pas appel à la coopération des archéologues étrangers, eh bien, toute une partie du patrimoine antique va disparaître. Autrement dit, Maspero accepte les missions étrangères et pour cela, on va changer la législation et on indique que désormais, il y a un partage moitié-moitié. Alors, ça posera des gros problèmes, bien sûr, parce que quelle moitié alors, au début, Maspero est très, très libéral et puis ses successeurs le seront un petit peu moins. Mais en tout cas, désormais, dans les années 1895-1910, à l'époque de Guimet, d'Antinoé, toute la moitié des objets reviennent en France.
On peut imaginer que de très, très belles étoffes de ce site sont présentées, donc bien sûr, dans l'exposition que vous aujourd'hui donc à Lyon. Les fouilles de Coptos commencent pour leur part en janvier 1910 et portent elles aussi sur la religion au travers de la fouille de plusieurs temples, donc notamment un temple d'Isis.
Voilà, de Mine et d'Isis. Effectivement, c'est ce qui a dû intéresser Émile Guimet. Il subventionne à titre personnel et au nom du musée Guimet cette fouille. Il subventionnera uniquement l'année 1910. Adolphe Reynac continuera seul en 1911, mais la totalité des objets est dévolue au musée Guimet et sera présentée dans le musée que Guimet rouvre à Lyon.
D'ailleurs, aujourd'hui, tous ces objets, où sont-ils? Le musée Guimet de Lyon n'existe plus. Oui. Celui de Paris est un grand musée national, mais ne présente absolument pas d'égyptologie.
Oui, c'est une histoire un peu compliquée, effectivement.
Où est le matériel aujourd'hui?
Alors, en 1900, juste après la guerre, hein, le musée de la place d'Iéna a été uniquement affecté aux arts asiatiques. Et donc, les collections autres ont été affectées à d'autres musées, notamment pour l'égyptologie, au musée du Louvre, au département des antiquités égyptiennes. Ce qui se trouvait au musée Guimet de Lyon a été transféré en 1969 au musée des Beaux-Arts de cette ville et quelques objets se trouvent encore dans le musée qui deviendra le musée des Confluences du département du Rhône.
Guimet semble avoir un goût très sûr. Défaut, il y en a pléthore, bien sûr, en égyptologie, comme d'ailleurs dans d'autres domaines de l'archéologie. Il nous faut toutefois évoquer rapidement cette histoire de scarabée acheté à prix d'or par le musée de Bruxelles.
C'est une affaire assez extraordinaire, puisqu'en fait, c'est une affaire d'escroquerie, ni plus ni moins. Les héritiers d'Urbain Bourian, qui est un égyptologue, un ancien directeur de l'école française du Caire, qui n'ont pas beaucoup d'argent, en 1908, font fabriquer deux faux objets, deux faux scarabées, qui ont la particularité de raconter le voyage possible, on ne sait pas s'il a été réalisé, effectivement, de l'exploration par les pharaons du tour de l'Afrique. Ces objets sont présentés à Guimet, qui considère qu'ils sont faux, en tout cas il le dit dès le début apparemment, mais son conservateur, l'égyptologue Alexandre Moret, en fait acheter un. Le second est acheté par Jean Capard, le conservateur du musée de Bruxelles, qui du coup demande à Guimet de racheter le premier. Guimet va faire une bonne affaire, 1500 francs de plus, et puis l'été suivant, en l'été 1908, les égyptologues allemands sont les premiers à dire que c'est un faux. Ce sont deux faux, bien réalisés, mais deux faux. Et la honte sera pour Jean Capard, quelque part, puisque c'est lui qui s'est fait avoir.
Émile Guimet est légèrement touché aussi par cette affaire. Quand même.
Il est attaqué par la presse, c'est vrai, mais il ne cherche pas trop à se défendre. Il va faire une conférence où il reconnaît, bah oui, on peut être trompé, par exemple. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça va lui rappeler une nouvelle qu'il avait écrite en 1877, qui s'appelle « Le scarabée indéchiffrable », où 30 ans avant, il annonce, il imagine une scène où quelqu'un trouve en Égypte un scarabée, et après l'avoir montré à des égyptologues français, allemands, britanniques, qui le trouvent tous extraordinaires, mais qui le datent de dynasties très différentes et pour des raisons encore différentes. Et il se rend compte que ce scarabée indéchiffrable est en fait un faux fabriqué à Paris, tout simplement. Donc, c'est un aller-retour entre 1877 et 1908.
Alors, nous ne sommes pas que dans la collecte d'objets exotiques. Le but n'est-il pas surtout d'illustrer les croyances et les philosophies orientales ? N'est-ce pas ça le message d'Émile Guimet ?
Oui, sans doute. C'est ce qui est vraiment le motif depuis son voyage de 1865, où il y a la révélation de l'Égypte antique. Il recherche les objets à caractère religieux. Il recherche en fait les fondements des religions, donc que ce soit la religion des anciens Égyptiens, mais du bouddhisme, la religion shinto. Et c'est un patron libéral qui est proche du saint-simonisme et qui donc veut vraiment donner le bien-être à ses ouvriers, au peuple autour de lui. C'est pour ça également qu'il met ses collections à la disposition du public. Donc c'est ça, sa recherche d'une sagesse universelle en quelque sorte.
Rappelons que nous sommes aussi dans les années 1905, de séparation de l'Église et de l'État. Guimet ne cherche-t-il pas d'autres approches, d'autres références religieuses, Éric Gady?
Alors sans doute, mais ça a commencé bien avant 1905, puisqu'il ouvre son musée en 1879. Le premier visiteur du musée, celui qui va l'inaugurer, c'est Jules Ferry. Or Jules Ferry, c'est aussi un programme de laïcité pour la France, les lois de 1882 par exemple. Et Jules Ferry, quelque part, ce musée des religions qui ouvre à Lyon, ça le confirme dans son objectif de développer la laïcité en France, bien avant 1905 donc.
En un mot, le monde de l'archéologie est impitoyable, nous le savons tous. Comment Guimet est-il perçu par les égyptologues de l'époque? L'un d'entre eux, un simple mécène?
Il est mal perçu aujourd'hui, il n'est pas perçu comme un égyptologue, aujourd'hui en tout cas. À l'époque, c'est peut-être celui qui aide et qui finance aussi, donc il est un peu mieux.
Éric Gady, Geneviève Galliano, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre exposition, « Un jour j'achetais une momie » qui se tient actuellement au musée des Beaux-Arts de Lyon. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré aux mammouths, archéologie, histoire et génétique du pachyderme. Le Salon Noir a été réalisé par Danny Journeau, à la technique Clément Daté, attaché d'émission Yaël Mandelbaum. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr. Ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain, à 14h, où vous pourrez retrouver la marche des sciences d'Aurélie Luneau, mais dans quelques instants, à 15h, rue des Écoles de Louise Tourret.